Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tour d'Europe, votre rendez-vous du lundi dans le podcast Eurosport FC qui traite de l'actualité des 5 grands championnats européens. Je suis Arthur Merle, vous l'avez donc compris, pas de Cyril Morin aujourd'hui. Je vais essayer de faire, à moitié aussi bien que lui, ce sera déjà très bien. En tout cas, je suis ravi, le programme, lui, est très chargé puisque dans un premier temps, on va rejoindre Guillaume Maillard-Pacini, notre spécialiste Serie A, qui va nous parler de l'information principale de ce lundi matin, à savoir la blessure de Paul Pogba, la rechute musculaire du Français. On va se poser une question toute simple, est-ce que le milieu de terrain tricolore peut encore participer à la Coupe du Monde ? Dans un second temps, on ira en Ligue 1 avec Elton Mokolo qui va revenir avec nous sur le match de clôture de la 13e journée entre Lyon et Lille. Beaucoup de choses à dire de cette rencontre, notamment tactiquement. Et on va surtout se demander ce qu'il faut attendre en termes de classement de l'Olympique Lyonnais dans les mois à venir. Un saut ensuite du côté de l'Espagne, puisque le Real Madrid sera le seul représentant espagnol en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est une première depuis 2003-2004. On va se demander comment le foot espagnol en est arrivé là avec Ana Caro. On ira ensuite, du côté de l'Angleterre. On va retrouver comme d'habitude Philippe Auclair. L'actualité en Première Ligue a été extrêmement chargée ce week-end. Notre sujet majeur, ce sera quand même le Liverpool de Jurgen Klopp qui rechute encore face à Leeds United. Est-on en fin de cycle du côté des Reds ? On verra ça avec Philippe. Avant de conclure, en Allemagne, vous l'avez vu, on sera très complet aujourd'hui. En Bundesliga, on rejoindra David Lortorari pour évoquer le tube du moment en Bavière. C'est Eric Maxime Choupo-Moting qui enchaîne les buts et les titularisations. On verra ce qui se passe pour l'attaquant camerounais en ce moment. En tout cas, vous pouvez, le petit rappel habituel, nous retrouver sur toutes les plateformes en tapant Eurosport Football Club. Vous nous retrouvez donc le lundi avec Tour d'Europe, le mercredi avec Mercredi Mercato et puis le vendredi avec Martin et Maxime dans le FC Stream Team. Voilà, je crois que le topo est complet, on peut se lancer dans cette émission très chargée du jour. On commence donc ce Tour d'Europe en rejoignant nos voisins italiens. Et qui de mieux pour nous parler foot italien que notre spécialiste Guillaume Maillard-Pacini ? Salut Guillaume, comment ça va ?
Écoute, ça va très bien. Je te remercie pour l'accueil. Et écoute, tout va bien. On a encore vécu un week-end assez animé en Italie avec plein de choses différentes. Donc, on a pas mal de choses à débriefer aujourd'hui dans Tour d'Europe.
Alors, justement, parmi toutes ces choses-là, quelle image tu as retenue de ce week-end animé en Serie A ?
Alors écoute, c'est une image assez surprenante qui s'est passée durant la mi-temps de Inter-Sampdoria samedi, 20h45. En fait, il y a un des leaders historiques de la Curva Nord de l'Inter, des Ultras, qui a été tué par balle aux alentours de 20h. Et en fait, quand la Curva Nord l'a appris, donc elle était au stade évidemment pour Inter-Samp, elle a décidé en première mi-temps déjà donc, d'enlever tous les étendards et de ne pas chanter. Et à la mi-temps, elle a décidé de quitter le stade en hommage à un leader historique, alors qui a passé plus de 20 ans de sa vie en prison, qui a eu quelques controverses, mais en hommage à sa mémoire, quand ils l'ont appris, ils ont décidé de quitter le stade. La polémique, Arthur, c'est que certains supporters présents au deuxième anneau vert, parce que c'est là que se situe la Curva Nord, voulaient rester dans le stade, parce qu'il y avait, il y en avait qui avaient fait des kilomètres pour venir voir le match, il y en avait qui venaient de l'étranger, des enfants, des familles, et il y a beaucoup de témoignages qui affluent en disant on a été contraint par la force à partir, on a frappé des gens, on a vu des familles en pleurs. Et la nouvelle aujourd'hui, ce lundi, c'est qu'une enquête quand même va être ouverte pour vraiment définir les contours de ce qui s'est passé. Et on parle même dans les médias de possible interdiction de stade. Donc voilà, on va vraiment essayer de faire un peu la lumière autour de cette affaire. Mais le ministre des Sports en Italie, Andrea Abodi, a dit qu'il allait se saisir de l'affaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé samedi soir à Giuseppe Meazza.
Bon, ce sont de tristes images. On va reparler un petit peu terrain avant de basculer sur notre sujet principal. Naples, un petit mot quand même sur Naples qui continue de marcher sur l'eau, qui caracole en tête du classement. Et puis l'AC Milan qui a perdu des points en s'inclinant dimanche soir.
Alors écoute, le Napoli n'avait jamais remporté 13 victoires de suite. Même à l'époque de Maradona, il y a maintenant plus de 30 ans. Donc c'est vraiment un Napoli, c'est un rouleau compresseur qui marche sur tout le monde, qui marque 4 buts par match, qui va affronter Liverpool, on le sait cette semaine, mais ce sera vraiment pour la première place, c'est assez anecdotique. Mais on a vraiment la sensation d'un rouleau compresseur et personne aujourd'hui ne semble en mesure d'arrêter le Napoli de Spalletti. On a encore vu un Kvaratskhelia, on en avait parlé avec Cyril ces dernières semaines, qui marche sur les défenses italiennes. Enfin, c'est vraiment impressionnant à voir. Tout fonctionne au Napoli et il y a un choc qui va arriver le week-end prochain, Arthur. Il y aura Atalanta-Naples, les deux premiers. Parce que Milan a perdu dimanche, qui a perdu du terrain. Donc Milan est à 6 points. Aujourd'hui, il est champion d'Italie. Et c'est vrai que Naples, aujourd'hui, on est le 31 octobre, paraît quand même le grand favori pour la victoire du Scudetto cette saison.
Bon, on reparlera sans aucun doute du Napoli dans les prochaines semaines avec toi, Guillaume. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, malheureusement, c'est le cas Paul Pogba, la rechute de Paul Pogba. La Gazzetta qui nous annonce aujourd'hui, ce lundi matin, que l'international français s'est blessé à la cuisse alors qu'il était en train de soigner son genou. Il s'était fait opérer du genou droit le 5 septembre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Qu'est-ce qui se dit en Italie? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails, Guillaume?
Alors écoute, comment on ne joue pas la Coupe du Monde, on se concentre sur celle des autres. Donc voilà, on essaye de savoir. En fait, la grande question, c'est la même qu'en France. C'est est-ce que Pogba va pouvoir participer au Mondial? Il faut rappeler que Pogba, en tout cas, n'a pas encore joué le moindre match officiel avec la Juve cette saison. Il a fait quelques amicaux, il s'était blessé une première fois aux États-Unis durant la tournée estivale, tu l'as dit, après il s'est fait opérer, après avoir réfléchi longtemps, en décidant d'abord de ne pas le faire et ensuite de le faire. Donc il a perdu, on va dire, 3 semaines dans sa convalescence. Et c'est vrai que là, il y a cette rechute assez surprenante parce qu'on ne s'y attendait pas et la Juve n'a pas communiqué. Et c'est vrai que c'est tombé ce lundi, tu l'as dit, dans la Gazzetta. On pronostique une absence de 10 jours, donc ça va être très difficile de voir Pogba engendrer des minutes avant le début du Mondial, du moins avant le début de la pause. On sait que Deschamps est dans l'attente, parce que lui non plus, on sait que les deux sont très liés et Deschamps est en contact permanent avec la Juve, qui est son ancien club, et avec Pogba. Et c'est vrai que même lui, il est resté assez surpris par ce nouveau coup dur pour Pogba. Et on est assez pessimiste quand même, Arthur. On imagine mal Pogba disputer la Coupe du Monde parce qu'en plus, Deschamps l'avait dit, lui, il ne prendra pas des joueurs qui n'ont pas de minutes dans les jambes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Pogba à la Juve, c'est un vrai mystère. Et tu vois, la Gazzetta parlait d'un chemin de croix depuis le retour de Pogba à la Juve. Donc, ça te laisse un peu imaginer le sentiment qu'on a d'abord pour la Juve, parce que c'était quand même une des grosses recrues l'été dernier, c'était un énorme retour du côté de Turin, et aussi pour la France, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on parle de grand pessimisme dans l'environnement de la Juve. On imagine mal comment Pogba pourrait disputer une Coupe du Monde alors qu'il n'a toujours pas joué un match cette saison.
On a l'impression quand même que l'affaire était entendue avant même cette rechute, puisqu'Allegri, tu m'arrêtes si je me trompe, disait que de toute façon Pogba ne rejouerait pas avec la Juve avant le début du Mondial. Donc déjà les choses étaient compliquées. Et là, si on fait un calcul, si on n'est pas trop nul en maths, 10 jours, ça correspond à peu près au moment où Didier Deschamps va donner sa liste. Donc en fait, j'ai envie de dire, il y a même plus de suspense. Deschamps va devoir se passer de Pogba pour la Coupe du Monde.
Écoute, il faudra voir s'il fait une liste de 23 ou 26. Ça, c'est toujours un peu l'inconnu. Mais c'est vrai que quand on relit les propos de Deschamps, qui avait accordé une interview à Brut, il me semble, la semaine dernière, lui avait dit clairement qu'il ne prendrait pas de joueurs qui sont, on va dire, en délicatesse, parce que ça concentre les médias, ça concentre le staff médical. Et lui, probablement, on n'a pas le temps, même si Pogba, on le sait, il y a un de ses soldats depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'Allegri, on va dire, avait manié le chaud et le franc en disant, Chiesa, parce que lui aussi Chiesa est sur le retour, et Pogba, ça va être très compliqué de le revoir avant la pause. Mais Pogba, pour le coup, c'est vraiment une blessure. Autant Chiesa, ça fait un an qu'il est blessé, donc on prend beaucoup de précautions autour de lui, forcément, et on le sait malheureusement, l'Italie ne jouera pas le Mondial. Mais Pogba, c'est vraiment surprenant parce qu'on s'attendait déjà à le voir dans le groupe contre Benfica, il n'y était pas. On l'attendait à le voir contre l'Inter, parce qu'il y a un énorme choc, il y a eu l'Inter qui arrive, on l'attendait à le voir là, il ne sera pas là, et tu l'as dit, la liste arrive le 9 novembre, Pogba ne sera pas de retour dans le groupe de la Juve avant, et c'est même pas certain qu'il y soit du tout. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme suspense, et aujourd'hui, si je devais te donner un pourcentage, je pense que Pogba ne sera pas à la Coupe du Monde, on va dire à 85%, 90%, parce que ça me paraît trop compliqué aujourd'hui pour, parce qu'il faudrait beaucoup de choses, faudrait qu'il s'en remette en jambes, faudrait qu'il ait, il a pas le rythme de match, on sait bien que le rythme de match c'est particulier, et aujourd'hui Pogba part de zéro, hein, donc c'est assez compliqué, et voilà, de ce qu'on dit vraiment à la Juve, que la Juve laisse filtrer aujourd'hui, c'est que le mondial ça va être trop juste pour Pogba.
Puis ce qu'il faut bien préciser quand même, c'est que autant évidemment l'équipe de France aurait tout intérêt à ce que Paul Pogba accélère sa rééducation et sa remise en forme, autant la Juve, j'ai envie de dire au point où elle en est avec ses semaines d'absence depuis son transfert cet été, elle n'a aucun intérêt à précipiter son retour pour qu'il y ait encore des rechutes. Et ce qui se passe actuellement, c'est l'exemple parfait. Pogba est revenu, mais déjà il rechute, c'est peut-être qu'il est presque revenu un poil trop tôt.
Ouais. Tu sais, il y a le même cas à l'AC Milan avec Mike Maignan, par exemple, toi qui voulais se contrôler à Clairefontaine, et finalement ouais. Milan a décidé de le garder. Et en fait, il faut se mettre aussi à la place des clubs, parce que c'est eux, évidemment, qui les rémunèrent. Et c'est certain qu'aujourd'hui, si Pogba partait éventuellement à la Coupe du Monde, ce serait un énorme risque. Et imagine si Pogba se reblesse, je ne sais pas, en huitième de finale, par exemple. Derrière, c'est la Juve qui en fait les frais. Donc, on sait que la Juve et l'équipe de France sont plutôt en bon terme. Deschamps, d'ailleurs, fait très bien intermédiaire. Mais c'est certain que la Juve, aujourd'hui, ce n'est pas dans son intérêt de voir Pogba partir au Mondial, comme ce n'est pas dans l'intérêt de Milan de voir Maignan partir au Mondial. Par contre, il faut se dire que la volonté des joueurs est énorme. Pogba, c'est probablement qu'il pourrait disputer son dernier Mondial. Mike Maignan, lui, a envie d'y être, parce qu'il sait que voilà, c'est la doublure de Lloris. Et pour un joueur de football, c'est évidemment une consécration de jouer un Mondial avec une sélection. Donc, voilà, il faut faire face à la volonté du joueur, la volonté du club, la volonté de la sélection. Et c'est certain qu'aujourd'hui, dans l'intérêt de la Juve, c'est de garder Pogba au chaud pendant toute la Coupe du Monde, de le remettre, on va dire, en place, tranquillement, calmement, et de compter sur lui. Parce que tu sais, la Juve est éliminée avec les champions. La Juve est assez éloignée en Serie A. Et il y a une opération remontée qui va commencer après la pause du Mondial, donc en janvier. Et à ce moment-là, la Juve veut Pogba dans le moteur. Et s'il participe au Mondial, ça va être plus compliqué.
Tu l'as dit, la Juve est éliminée de la Ligue des Champions, mais il reste un match à disputer, un match de poule face au Paris Saint-Germain, un match de gala quand même. Dans quel état d'esprit est la Juve avant ce match? Est-ce qu'on est encore dans la déception de cette élimination? Ou est-ce qu'on se dit, bon, on se remobilise parce que d'une, c'est un match contre le Paris Saint-Germain, c'est pas rien. Et de deux, il y a quand même une place en Ligue Europa à sécuriser.
Bah écoute, on est forcément dans la déception parce qu'il y a l'art et la manière de se faire éliminer avec 5 défaites en 6 matchs, c'est du jamais vu dans l'histoire glorieuse de la Juve. Donc la manière n'a pas été bonne contre Benfica, c'est un 4-3, mais voilà, qui est récupéré sur la fin. En tout cas, on aborde ce match de manière où on n'a pas envie de terminer quatrième, quand même, pour l'honneur du club et aussi pour la Ligue Europa, pour limiter les dégâts, parce qu'économiquement parlant, la Juve, avec cette élimination, s'assoit sur entre 20 et 25 millions d'euros, donc c'est énorme. Ligue Europa ne les rapportera pas, mais tu vois, ça peut quand même combler, on va dire, les trous pour un club qui a encaissé quand même 250 millions d'euros de pertes, donc ça serait quand même limiter les dégâts, et on a envie aussi voilà, de sauver un peu la face au PSG, parce qu'on ne peut pas terminer une phase de poule avec Benfica, Paris et le Maccabi Haïfa avec une seule victoire. Ça serait du jamais vu. Et il faut rappeler aussi, Arthur, qu'une victoire ancienne, c'est 2,8 millions d'euros. Donc, tu vois, ce sera aussi un petit bonus qui ferait du bien en caisse de la Juve. Donc, la Juve est toujours sonnée, ça c'est évident. Elle a gagné de très peu face à Lecce, avec très peu de manière, encore une fois, samedi dernier. Mais elle a envie quand même de sauver un peu son honneur et voilà, de faire un peu plaisir à ses supporters qui sont déprimés par le jeu, par les résultats. Donc voilà, c'est un match important pour la qualification Ligue Europa et c'est surtout un match important pour l'honneur. Parce que la Juve aujourd'hui doit laver son honneur en Europe et pour l'instant elle ne l'a pas fait. Donc c'est un match important vraiment, plus qu'au terme du résultat, important aussi pour l'orgueil de tout un club et de tous les supporters. Parce que Tutto Sport, un journal piémontais qui est proche de la Juve, parlait quand même de honte la semaine dernière après la défaite contre Benfica. Donc il y a une honte quand même à laver. Il y a 10 millions de supporters quand même qui attendent d'être un peu heureux dans cette saison quand même qui est assez maussade pour la vieille dame.
Bon, en tout cas, on va évidemment suivre avec un œil particulier ce match avec notre œil français entre la Juve et le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Guillaume, pour ta présence aujourd'hui. On espère que tu nous parleras de choses un peu plus joyeuses quand même la prochaine fois.
J'espère aussi.
Que des incidents en tribune et qu'une blessure de Paul Pogba. En tout cas, merci Guillaume et à très vite. Après la Serie A, on revient donc dans notre chère Ligue 1 où on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste du championnat de France. Salut Elton, comment ça va?
Bonjour Arthur, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois qu'on est ensemble,
ouais,
et en espérant qu'on va faire de bonnes minutes.
Ouais, j'en doute pas. Le week-end de Ligue 1 a été assez chargé. Quelle est l'image qui t'a le plus marqué avant qu'on évoque notre gros sujet du jour?
Ah, pour le coup, on est dans la continuité de ce qu'on a vu en Ligue 1, savoir qu'on a été gâté sur le plan des images avec Openda vendredi. Le samedi face à Troyes, avec notamment Lionel Messi qui est extraordinaire en ce moment, et même Rennes qui a fait une performance de haute volée. Donc pour le coup, on est encore une fois dans ce qu'on voit du côté du championnat français, à savoir les grosses équipes qui sont performantes et avec les joueurs qui sont dans une très belle forme à quelques semaines de la Coupe du Monde.
Tu parles des grosses équipes, ça nous amène à quand même parler un petit peu de ce podium qui évolue de semaine en semaine. On avait Lorient et Marseille qui talonnaient le PSG récemment. Maintenant, place à Rennes et Lens. Qu'est-ce que tu lis, toi, dans cette évolution de classement au tableau?
Ah, c'est marrant parce qu'il y a deux semaines, on voyait Lorient et Marseille comme des équipes qui étaient installées dans le haut du tableau. Et là, il y a une espèce de vague de dégagisme avec Rennes et Lens qui ont pris leur place. Et donc, c'est très intéressant. On voit déjà que le rythme, la moyenne de 2 points est en train de se diminuer pour beaucoup d'équipes. Et ça, c'est de manière très logique parce que les matchs s'enchaînent. Ouais. Et donc, forcément, il y a la fatigue, les adversaires qui sont beaucoup plus attentifs à ce que tu vas faire. Et donc, par rapport à ça, le fait de voir Rennes monter en puissance, le fait de voir à Lens confirmer le début de saison, le très bon début de saison, et ben c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes et qui confirment que dans le paysage de la Ligue 1, et ben il y a un renouvellement dans le haut du tableau et ce n'est pas pour nous déplaire. Et
on a quand même l'impression que pour avoir droit à ce haut de tableau, il faut jouer, il faut être proactif sur le terrain. Ça, c'est quand même super intéressant.
Et ça, c'est quand même une très bonne information, à savoir que c'est des équipes qui sont récompensées par le jeu et en termes de points. Ce qui est le plus important, à savoir qu'il faut remporter ces matchs et ensuite être convaincant par le jeu. Pour le coup, Lens, après avoir eu quand même une certaine période où ils ont gagné par un but d'écart, là, cette fois-ci, on a eu une victoire avec autorité. Rennes est dans la continuité de ce qu'il fait depuis plusieurs semaines. Donc, ça récompense les équipes avec du jeu, des équipes proactives, des équipes tournées vers l'avant et que ça continue ainsi.
Ouais, nous, en tout cas, on se régale chaque semaine. On va basculer sur le match du dimanche soir qui nous a occupé dimanche entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Victoire 1-0 de l'OL grâce à un but de Lacazette. Victoire un petit peu heureuse pour l'OL. Pour autant, on a vu un match quand même assez intéressant tactiquement. On a eu une première période avec le LOSC qui pressait très bien. Et puis des ajustements au retour des vestiaires. Comment t'as analysé ce match-là, toi?
C'est un match effectivement très intéressant tactiquement parce que très vite, on a eu un rapport de force. Lille qui avait le ballon et qui enfermait Lyon dans son propre camp. Lyon qui était dans une position davantage attentiste avec un système à 3. On a eu le sentiment que Lille allait prendre les devants et Lyon a su courber les chines, ne pas céder. Ensuite, en deuxième période, le rapport de force est rééquilibré à la faveur d'une intervention tactique de Laurent Blanc, ouais, qui a mentionné avec un passage à 4 défenseurs, mais surtout le milieu de terrain qui a été renforcé. On en avait déjà parlé avec, ouais, Cyril. Laurent Blanc est quand même très très sensible à la fonction du milieu de terrain. Il aime bien voir des équipes où le milieu de terrain sera très important. Et donc on a vu Lille petit à petit qui s'est enfermé dans un faux rythme voulu par l'Olympique Lyonnais. Et à ce petit jeu-là, l'Olympique Lyonnais, sur l'une de ses rares occasions, a fait mouche. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important pour l'Olympique Lyonnais, à savoir sur ce type de match, ok, on est dans un sentiment d'infériorité sur le début de match, mais petit à petit, on va trouver des ressources tactiques pour faire en sorte que l'adversaire, en l'occurrence Lille, déjoue. Et c'est ce qui s'est passé avec notamment une victoire qui est très importante sur le plan comptable dans un premier temps et surtout sur le plan moral.
Sur le site eurosport.fr, Julien Pereira, notre journaliste, a fait une antisèche qu'il a titré « On sent l'effet blanc, pas encore la patte blanc ». Est-ce que toi tu partages ce constat? Est-ce qu'on sent plus l'effet en termes d'implication que dans le jeu, ou est-ce que tu vois toi déjà des évolutions dans le jeu?
Je suis assez d'accord avec Julien, à savoir qu'il y a l'effet blanc, notamment sur des joueurs qui sont davantage concernés. Laurent Blanc l'a très vite dit en conférence de presse, il va davantage s'appuyer sur des joueurs expérimentés, parce que sur ce type de situation, on a surtout besoin d'avoir des joueurs expérimentés. C'est pas anodin de voir Boateng faire pour une fois un match, ouais, de 90 minutes. C'est pas anodin de voir Anthony Lopez, qui pour moi a été le meilleur Lyonnais avec des parades qui ont été déterminantes. C'est pas anodin de voir Lacazette qui est l'unique buteur. Donc c'est un premier message, à savoir que les joueurs expérimentés entre guillemets ont une lourde responsabilité et c'est des joueurs qui doivent se mettre au diapason. Pour l'instant, ils le font.
On est quand même tenté de regarder le classement maintenant pour l'Olympique Lyonnais, parce que deux victoires de suite, ça faisait longtemps que les Gones les attendaient. L'OL est à 4 points du top 5, à 7 points du podium, un petit peu plus loin. Ma question, elle est simple et compliquée à la fois. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'OL pour la suite? Qu'est-ce que vise l'OL dans cette suite de saison?
Pour l'instant, Arthur, le président Laurent Blanc a fixé un cap, à savoir le 13 novembre. Le 13 novembre, ouais, ce sera la fin de la première partie de la saison de Ligue 1. Il y a quand même des adversaires compliqués sur le papier. Il y a le match contre l'Olympique de Marseille et à Nice. Clairement, il faut que l'Olympique Lyonnais prenne des points. Et de la manière dont ils vont prendre les points va dépendre la suite de la saison. Pour moi, je pense que l'horizon, ça va être l'horizon top 5. Parce que pour moi, la Ligue des Champions, ça me paraît trop compliqué au regard de la nature de l'effectif. Donc je pense que dans un premier temps, Lyon a besoin surtout d'emmagasiner des victoires et de la confiance. Parce qu'on voit encore hier, ça reste une équipe malade. Une équipe malade qui n'a pas la possibilité de déployer tout son jeu, tout son arsenal offensif et qui est surtout dans une position attentiste. Donc clairement, on va y aller étape par étape, à savoir remporter des points, avoir de la confiance pour ensuite avoir une meilleure maîtrise dans le jeu. Mais pour moi, je pense que l'objectif, ça va être de rejoindre le top 5 et avoir une Coupe d'Europe, parce que clairement, pour moi, cette saison, la Ligue des Champions, ça me paraît très très compliqué.
Les prochaines étapes, tu as commencé à les évoquer, c'est un déplacement à Marseille au Stade Vélodrome dimanche prochain, puis la réception de Nice, programme relativement chargé. Bien sûr qu'on est tenté de se dire qu'on aura beaucoup plus de réponses après la Coupe du Monde, mais sur ces deux matchs, on aura quand même aussi pas mal de réponses sur ce à quoi l'OL peut prétendre peut-être.
Arthur, c'est ce qui manque à l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs saisons maintenant, c'est cette fameuse régularité. Et cette régularité, Laurent Blanc est censé la porter. Le fait d'aller au Vélodrome face à un adversaire qui sera revanchard et qui sera conditionné par sa qualification ou non-qualification en 8e de finale de Ligue des Champions va être un révélateur très important. Le fait de voir Lyon dans une configuration extérieure, donc dans un environnement hostile parce que c'est l'Olympico, et ben ça va nous permettre de voir de quel bois est fait l'Olympique Lyonnais version Laurent Blanc. Et s'ils arrivent notamment à décrocher une victoire, là, ça peut faire énormément de bien pour la confiance avant de terminer par Nice. Donc moi, j'attends beaucoup de cette rencontre pour voir comment l'Olympique Lyonnais va réagir. Dans un premier temps, face à Marseille, un candidat déclaré pour le podium de la Ligue 1, dans une configuration Vélodrome hostile avec des joueurs qui vont devoir faire preuve de personnalité et d'assurance. Et ensuite, comment l'Olympique Lyonnais va être une équipe qui sera capable justement de matérialiser ses bons moments. Parce que, encore une fois, on l'a vu hier, c'était sur une action isolée. Il faut clairement avoir une équipe lyonnaise qui soit capable d'avoir plusieurs temps forts à l'intérieur d'un match. Et là, on pourra dire que ce ne sera plus un effet blanc, mais surtout la patte Laurent Blanc.
On va attendre de voir le match de l'OM contre Tottenham cette semaine en Ligue des Champions, ô combien important. Pour autant, est-ce que tu sens un rééquilibrage, j'allais dire, dans les tendances entre les deux clubs? Si on avait enregistré ce sujet il y a deux semaines, on aurait dit avantage à l'OM, forcément. Là, on sent que le rapport de force s'est rééquilibré peut-être entre les deux équipes.
Alors moi, je dirais davantage sur le plan comptable, parce qu'il y a 4 points de retard en faveur de l'Olympique de Marseille, ou plutôt 4 points d'avance en faveur de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et maintenant, par rapport au rapport de force, je continue de penser que l'Olympique de Marseille est devant l'Olympique Lyonnais. Ouais. Après, ça reste de la littérature, Arthur. Je te renvoie au match de la saison dernière, où l'Olympique de Marseille est un candidat déclaré au podium, un candidat déclaré à seconde place. Ils ont pris une valise à domicile face à l'Olympique Lyonnais qui a terminé 7e de Ligue 1. Donc c'est la vérité d'un match, pas forcément la vérité d'une saison. Et je pense qu'à l'occasion de ce match, l'Olympique Lyonnais, avec ses joueurs, il y a quand même des joueurs de qualité, est capable justement de faire en sorte que le rapport de force va être à l'équilibre.
Bon, mon petit doigt me dit que vous débrieferez de cet Olympico lundi prochain avec Cyril. Merci Elton,
c'est
d'avoir
un plaisir,
été avec nous une fois de plus. Et nous, on va désormais rejoindre Anna Caro et l'Espagne. Salut Anna, comment ça va?
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, merci. On l'a dit en introduction, on va évoquer les problèmes des clubs espagnols en Ligue des Champions. Mais avant ça, il y a eu un week-end de Liga chargé, il s'est passé des choses. Qu'est-ce que tu as retenu toi comme image forte de ce week-end, Anna?
Et ben, comment ne pas retenir ce match entre le Real et Girona, et puis ce premier coup d'arrêt pour le Real en Liga avec ce match nul contre un promu en plus. Donc sacrée surprise de la part de Girona qui a fait un très très gros match face à un Real un peu amputé avec l'absence de Benzema, notamment le fait que Rodrigo était malade. Donc une très belle performance, surtout de des latéraux, hein, des pistons en fait de Girona qui ont amené énormément de danger en fait dans la surface du Real. Et on peut dire que c'était un point mérité, même si évidemment en Espagne aujourd'hui on parle beaucoup plus de l'arbitrage,
ouais,
que du match en lui-même finalement, où le Real a montré beaucoup de lacunes.
Et du coup, ça profite au Barça. Victoire à l'arraché grâce à un but très tardif de Robert Lewandowski. Ça n'allait pas très bien pour le Barça. Finalement, il y a une bonne bouffée d'air prise ce week-end.
Oui, c'est une victoire un peu importante, surtout mentalement, parce qu'on a vu que le Barça était très touché mentalement déjà après son match ses deux matchs contre l'Inter. On voit que c'est plus de ce côté-là, même si bon, tactiquement on voit encore qu'il y a quelques soucis qui sont toujours pas réglés du côté du Barça, mais une victoire à l'arraché comme ça à Mestalla, ça peut être très très important pour la suite, même si bon là il reste très peu de matchs d'ici la Coupe du Monde et qu'en plus le Barça va jouer un peu un match d'entraînement on va dire à Pilsen où beaucoup de cadres ne seront pas là.
Bon, la transition est toute faite du coup, Anna, on va continuer de parler du Real, du Barça. Mais on va parler de Ligue des Champions. La semaine dernière, le Barça et l'Atlético ont été éliminés avant même la sixième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le résultat, c'est quoi ? Eh ben, on n'aura que le Real Madrid en huitième de C1. C'est la première fois qu'il n'y a qu'un seul club espagnol en huitième de finale depuis que la Ligue des Champions a sa formule actuelle. C'était à partir de la saison 2003-2004. Ma question, Anna, elle est toute simple. Comment est-ce que le foot espagnol en est arrivé là ?
C'est une bonne question, c'est surtout beaucoup, beaucoup de causes différentes. Là, si on prend cette saison, les causes, elles sont plus dues au club eux-mêmes qu'au championnat espagnol. Parce qu'on a vu il y a des années où effectivement, le Real était le seul représentant de l'Espagne, enfin, on va dire dans les derniers carrés. Mais c'était un moment en plus où le championnat espagnol ne se portait pas forcément très très bien. On avait les saisons 2017, 2018, 2019, 2020. On avait un championnat de Liga qui était assez faible, avec très peu d'intensité, beaucoup d'arrêts de jeu, etc. Et malgré tout, le Real arrivait à gagner la Ligue des Champions. Donc les échecs de cette saison sont plus dus à des problèmes liés au club en interne. Par exemple, si on prend le cas de Séville, c'est un peu une surprise pour personne, le fait qu'ils soient déjà éliminés de C1 parce qu'ils ont fait un très très mauvais début de saison.
Ouais.
Ils se sont pas du tout renforcés cet été, ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils ont perdu la charnière centrale. Si on prend l'Atleti, c'est pareil, c'est un problème avec des blessés, mais aussi des incertitudes tactiques. On voit que Simeone ne sait toujours pas vraiment comment roder son équipe. Et puis bah, le Barça, on a l'impression que c'est plus psychologique qu'autre chose, que le fait que ce pénalty n'ait pas été sifflé sur la main de Dumfries, ça a un peu fait écrouler toute l'équipe dans la compétition. C'est tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui les clubs sont éliminés. Et du côté de l'Espagne, il y a assez peu de remise en question finalement du système et de la Liga à cause de ces éliminations.
Bon, tu l'as dit, il y a des facteurs un petit peu conjoncturels, mais on a quand même l'impression, surtout si on prend les exemples du Barça et de l'Atlético en l'occurrence, qu'il y a des problèmes de fond. Le Barça, c'est la deuxième élimination de suite avant les huitièmes de finale, c'est pas rien pour un tel club. L'Atlético, on a quand même beaucoup de souvenirs de matchs où ça passe quand même ric-rac. Là, on est sur trois matchs de suite sans marquer en Ligue des Champions, on parle quand même de l'Atlético Madrid. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des problèmes de fond ? Parce qu'on a l'impression quand même, quand on regarde sur les 4-5 dernières saisons, d'ailleurs on vous a fait un visuel, c'est quand même le Real Madrid qui porte le foot espagnol à bout de bras et qui est toujours là dans le dernier carré, ou presque, quoi. À part l'exception Villarreal la saison dernière.
Oui, bah, parce qu'en fait, le Real Madrid est beaucoup mieux structuré que les deux autres clubs et ça fait des années qu'ils ont préparé l'équipe. Aujourd'hui, si on a Vinicius et Rodrigo qui sont à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a eu une planification sur le long terme. C'est une chose qu'on n'a pas du tout en fait du côté du Barça par exemple, parce que là, ok, ils ont vendu plein de parts du club pour pouvoir faire un mercato à la hauteur. Finalement, c'est vraiment un échec total hein, pour le Barça, parce que ça va coûter très cher économiquement cette élimination. Mais le Barça, Laporta l'a répété après l'élimination, le Barça est toujours entre guillemets en crise, il est toujours en reconstruction. Et ce qu'on voit aussi, c'est que là, il y a eu un peu un acharnement du sort, on va dire, contre le Barça, avec le fait qu'il y a tous les défenseurs qui soient blessés, et ça amène à ce fameux match contre l'Inter où on voit Piqué et Busquets totalement dépassés finalement. Ouais. Mais parce qu'en fait, Xavi n'avait pas d'autre solution que de les aligner. Après, l'Atlético, le problème, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, ils se voient toujours plus petits en fait qu'ils ne sont vraiment. Ils ont du mal un peu à accepter le statut de grand club qu'ils sont aujourd'hui. Simeone aime en plus à répéter qu'ils ne sont pas forcément favoris, etc. Et au bout d'un moment, bah, ça pèse dans les esprits en fait. Quand on te dit que bah, ouais, tu peux perdre contre Bruges, bah oui, tu perds contre Bruges. C'est un peu comme ça. Et puis, il y a toujours cette question de, par exemple, Koke qui est blessé depuis un petit moment, de Jiménez qui enchaîne les blessures lui aussi, ouais. Oblak qui a été absent un peu lui aussi. Donc, en fait, l'Atleti paye son état mental, paye aussi la fatigue hein, de Simeone, parce qu'on le voit en conf de presse, il est beaucoup moins réactif qu'il peut l'être. Il est toujours beaucoup sur la défensive, parce qu'on sent qu'il n'a pas forcément les clés, en fait, qu'il n'a pas forcément les réponses aux problèmes de ces équipes actuellement.
Tu parles de l'Atlético Madrid, Anna. Les Colchoneros, ils ont vécu une semaine particulièrement éprouvante, j'allais même dire cauchemardesque. Il y a eu cette fin de match complètement irréelle face à Leverkusen avec ce pénalty sifflé à la fin, après la fin de la rencontre, pénalty raté qui aurait pu offrir un sursis à l'Atlético en Ligue des Champions, puis cette défaite contre Cadiz ce week-end, elle aussi complètement folle, avec des buts dans tous les sens dans le temps additionnel. J'ai même pas évoqué la blessure d'Alvaro Morata, qui pourrait poser problème à l'Atlético aussi. Comment on vit ça du côté des Colchoneros ? Est-ce qu'on est complètement abattu là ?
Alors du côté des supporters, on est assez abattu. Et puis il y a des motifs d'espoir finalement, parce que quand on a vu l'entrée de Joao Félix qui est capable de claquer un ouais. doublé en 4 minutes, bon, c'est un super motif d'espoir. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que il y a un peu deux visions assez opposées. C'est-à-dire que Simeone, c'est toujours un dieu du côté de l'Atleti, etc. Donc il y en a beaucoup qui osent pas trop le remettre en question. Et même si c'est lui qui prive l'Atleti de Joao Félix depuis le début de saison. On a même cette fameuse rumeur de prolongation jusqu'en 2026 qui arrive là juste après ouais. un échec contre Cadiz, donc ça n'a pas franchement de sens. Et de l'autre côté, on a des supporters qui vont peut-être un peu moins au stade, mais qui suivent quand même l'équipe et qui eux sont vraiment très remontés contre Simeone, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que tactiquement, en tout cas, Simeone ne sait plus vraiment quoi faire pour aider son équipe. Ça met beaucoup un peu de bâton dans les roues de l'Atleti, qui lui-même n'a pas de certitude. Donc c'est un Atleti très compliqué à suivre, même parce que finalement, depuis le début de saison, ils font le job en Liga, alors que c'est pas brillant. Mais c'est vrai que Alvaro Morata a pas mal apporté à cette équipe par rapport à l'année passée, parce que c'est ce fameux point d'appui quand l'Atleti doit jouer contre des blocs bas. Donc là, son absence va être vraiment préjudiciable pour l'Atleti, et on se demande encore de ce que veut faire Diego Simeone de Griezmann, parce que finalement lui, il n'était pas titulaire face à Cadiz. Il a préféré des Correa, des Cunha, des profils un peu plus mobiles, on va dire, et plus offensifs. Et puis là, bah, Cadiz a été très très fort sur les contres. Donc même si quand les deux buts de Joao Félix sont marqués à la toute fin, l'Atleti, qui est tant habitué à ses victoires à la 90e, 15e, 17e, se dit « Ok, là, c'est bon, on va remonter encore une fois. » Et non, finalement, c'est eux qui se font avoir par leur propre technique. Et c'est le contre à la toute fin, qui est d'ailleurs le but le plus tardif encaissé par l'Atleti en Liga.
Bon, on va voir si l'Atletico a un peu le droit au bonheur cette semaine en Ligue des Champions pour finir décemment cette phase de poule. En tout cas, merci Anna pour ta présence dans l'émission. On se retrouve très vite et nous, de notre côté, on va filer en Angleterre rejoindre Philippe Auclair. On rejoint donc maintenant notre spécialiste Premier League, Philippe Auclair. Salut Philippe, comment ça va ?
Pas trop mal, merci.
On l'a dit en introduction, on va surtout se concentrer sur Liverpool aujourd'hui. Mais quand même, on ne peut pas commencer ce sujet Premier League sans revenir sur... beaucoup des choses qui se sont passées ce week-end. L'actu a été extrêmement chargée entre le retour de Graham Potter à Brighton, la nette victoire d'Arsenal ou encore la victoire de City sans Erling Haaland. Il s'en est passé des choses.
Oui, alors que c'était un week-end, on se disait il n'y a pas de très très grosses affiches, ça devrait être un week-end tranquille, etc. Et puis en fin de compte, c'est la Première Ligue, ça veut dire qu'on a eu notre lot de surprises. Ça veut dire qu'en effet, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. En fait, on peut peut-être En remontant dans le temps pour ce qui est le plus proche, il y a la victoire quand même de Manchester United avec le 100e but de Marcus Rashford, avec Cristiano Ronaldo qui était dans le 11 de départ, et la confirmation que Eric Ten Hag fait du très bon travail tout simplement avec United et qu'ils sont en train de retrouver un équilibre qu'ils n'avaient certainement pas en début de saison. Juste avant cela, Arsenal avait fait le spectacle, fait le show contre Nottingham Forest et ouvrant la marque dès Gabriel Martinelli dès la 5e minute et puis après déroulant leur football, particulièrement en seconde période, de façon extrêmement séduisante, avec juste un petit bémol. Je dis bien un petit bémol parce qu'on ne sait pas très très bien quelle est la gravité de la blessure, mais c'est le fait que Bukayo Saka a dû être remplacé à la 26e ou 27e minute avec un choc à la cheville. Bukayo Saka, de toute façon, qui est la cible des défenseurs adverses en permanence, c'est dû à son style de jeu, c'est dû au fait qu'il est très dangereux et qu'à mon avis, il n'est pas suffisamment protégé par les arbitres. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais Saka a dû quitter le terrain. Nelson est entré en jeu, ce qui lui a plutôt réussi puisqu'il est sorti avec un doublé et une passe décisive. De nouveau, un Gabriel Jesus qui ne marque pas, mais qui a été très, très bon dans le jeu. Et franchement, la mini-crise d'Arsenal est terminée. Les revoilà donc en tête du championnat d'Angleterre à l'issue de cette, je ne sais plus si c'est la 12e, 13e ou 14e journée avec tout ce qui a été déplacé. Mais en tout cas, à la fin de ce week-end, Arsenal donc revenu en place. Si on repasse maintenant à samedi, je pense très honnêtement que ce qui nous a peut-être le plus surpris, ça a été la manière de la défaite de Chelsea à Brighton. Parce qu'on savait que ça serait compliqué, Brakip, parce que Graham Potter s'en est allé, De Zerbi est arrivé, qui est un excellent manager, les résultats n'ont pas été fantastiques, mais le style était là, on savait qu'ils seraient remontés comme des pendules pour le retour de l'entraîneur qui les avait tellement fait progresser au cours de ces dernières saisons, et puis quand même Graham Potter a pris des décisions un petit peu particulières, là, faire jouer Raheem Sterling par exemple en piston, et d'ailleurs à la fin de la rencontre, Potter avec sa lucidité habituelle, mais aussi sa candeur habituelle, a dit je me suis planté. Je me suis planté, Brighton en a profité. C'est pas une catastrophe pour Chelsea, ça met fin à cette invincibilité. Ça y est, la première défaite est derrière lui, on va pouvoir passer à autre chose. Et pour Brighton, ça confirme tout simplement qu'ils sont une équipe avec laquelle on va continuer à compter. Et puis, on revient... Je continue de remonter dans le temps, là, Arthur.
Bien sûr.
Manchester City, pas un match des plus convaincants, moins qu'on puisse dire, face à un Leicester qui était très organisé, regroupé en 5-4-1, qui d'ailleurs a été dangereux en fin de seconde période en particulier. Et Manchester City, qui a fait la différence sur un coup de génie du meilleur milieu de terrain de la Première Ligue depuis des années, allez, on va peut-être même dire du meilleur milieu de terrain européen depuis des années, à savoir Kevin De Bruyne, qui a marqué une espèce de chef-d'œuvre de coup franc. On le voyait venir quand il a posé le ballon, on savait exactement où il entendait le mettre. On se dit, c'est quand même pas possible. Il était quand même relativement loin du but, et puis il l'a mis exactement là où il fallait, poteau rentrant.
Un petit air de Juninho sur ce coup franc, dans la surface du pied utilisé.
Oui, absolument, absolument. Et le fouetté. Ouais, le fouetter du ballon et l'effet. D'ailleurs, il en a parlé. Il n'a pas parlé du grand Juninho Pernambucano après la rencontre, mais il a expliqué qu'il avait pris des risques sur cette frappe. Que la seule façon pour lui de pouvoir marquer, c'était en prenant des risques justement sur la façon dont il a donné cet effet au ballon. Bon, ce qui, au passage, indique assez bien qu'on a affaire à quelqu'un qui non seulement joue au football, mais qui pense au football en permanence et qui a été superbe. Et qui a eu droit au compliment de Pep Guardiola après la rencontre, parce que Guardiola avait été très critique de Kevin De Bruyne la semaine précédente, en disant qu'il ne participait pas au jeu de la manière habituelle, qu'il était en retrait par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui, vu son talent, etc. etc. Là, il a été une nouvelle fois l'homme par qui la victoire est arrivée, en l'absence de Erling Haaland, donc toujours blessé avec ce petit problème musculaire, et City, donc qui continue sur... Exactement comme on pouvait s'y attendre, qui demeure le favori, le grand favori de cette première ligue, saison de première ligue, même si Arsenal continue de défendre crânement sa chance. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui s'était passé autour justement de l'événement du week-end, exactement, qui est la défaite de Liverpool contre Leeds United.
Effectivement, cette défaite de Liverpool, alors on parlait de City qui va très bien, pour le coup Liverpool c'est très compliqué, il y a un peu ces montagnes russes qui ne s'arrêtent pas. Tu étais il n'y a pas longtemps dans Tour d'Europe pour évoquer cette victoire de Liverpool face à City, justement.
Oui.
On a vu aussi une victoire éclatante en Ligue des Champions du côté de Glasgow. Et puis là, en quelques semaines d'intervalle, il y a une défaite contre la Lanterne Rouge de Première Ligue, Nottingham Forest. Et cette défaite à domicile, à Anfield, face à Leeds United. Première défaite à Anfield depuis mars 2021, si je ne dis pas de bêtises.
Non, tu as raison.
Là, ça commence vraiment à devenir compliqué. Ça ressemble, j'allais dire, à une fin de cycle, en fait, du côté de Liverpool.
C'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que Liverpool passe par un moment très compliqué. Comme l'a dit d'ailleurs Trent Alexander-Arnold aux confrères britanniques après la rencontre, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et bien évidemment, la solution pour sortir de cette crise, c'est de trouver ce quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, est-ce un problème d'organisation tactique? Au vu des expériences qu'a faites Jürgen Klopp, où il est passé en 4-2-4-3-3, en 4-2-3-1, il a essayé un milieu en losange avec Firmino à la tête de ce losange, ça fonctionne pas véritablement. Donc tactiquement, il va encore tâtonner pour savoir quelle est la meilleure façon d'organiser ses troupes. Moi, je continue de penser qu'il s'agit d'une crise qui est exagérée de manière indue. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas la première fois que Liverpool traverse ce type de crise. Et souvenez-vous de ce qui s'était passé la saison 2020-2021, donc la saison d'après le titre, où ils avaient vécu un passage, mais ce n'était pas des turbulences, c'était une catastrophe, c'était une chute libre à partir de la fin décembre. Et où ils avaient été battus par Southampton, par Burnley, par Brighton, par Fulham. Ça avait été une catastrophe. Et la raison en était que cette équipe de Liverpool était complètement décimée par les blessures et que au fur et à mesure que les joueurs revenaient dans l'effectif, il y en avait un autre qui se blessait. Alors je ne vais pas dire que c'est exactement la même chose qui se passe cette saison. Ce que je vais dire malgré tout, c'est que les indicateurs à ce niveau-là pour cette saison sont négatifs et que Liverpool, malgré ses ressources qui sont très conséquentes, on est bien d'accord, n'a certainement pas l'épaisseur d'effectif nécessaire pour pouvoir gérer ce type d'absence sur la durée, et que ça crée des déséquilibres. Alors je ne dis pas que c'est le seul problème, hein, mais quand il vous manque, alors tout le début de saison, c'était Thiago Alcantara, qui est le pivot de cette équipe pour moi, et puis maintenant, le problème, c'est qu'on a Luis Diaz et Diogo Jota, deux joueurs qui souvent, en plus de cela, sont des joueurs qui font la différence quand il faut faire la différence, des joueurs décisifs. Mohamed Salah, qui lui aussi a une saison en
En
montagne
dents de scie, ouais.
russe, oui, en dents de scie. Évidemment, le départ de Sadio Mané, ça, Liverpool n'y pouvait rien. Ils pouvaient pas s'accrocher à Sadio Mané qui voulait partir au Bayern, donc ils ont perdu un joueur absolument essentiel, l'un des meilleurs joueurs du monde. On en paye évidemment les conséquences. Et je trouve également, en milieu de terrain, il y a des faiblesses, il y a un manque d'épaisseur également au niveau de l'effectif. Et quand vous mettez tout ça ensemble, et qu'on a une équipe qui fonctionne tellement à l'énergie, à l'enthousiasme, à la synergie, à tout ce que vous voudrez, eh ben, ça peut créer des conditions qui font que tout d'un coup la machine s'enraye et que comme on l'a vu contre Leeds United, où ils se sont créés des occasions, il manquait le petit quelque chose, en défense des moments d'aberration totale.
Oui.
Le premier but de Leeds, très honnêtement, c'est pas parce qu'il y a crise à Liverpool, c'est simplement une erreur individuelle de Joe Gomez qui, au lieu de regarder où se trouve son gardien, adresse une passe à l'aveugle, bon, et ensuite il n'y a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Alors on va dire que c'est une faute de concentration parce que justement ils n'ont pas la bonne approche psychologique pour ces rencontres. C'est possible, tout cela peut être pris en ligne de compte. Mais ce que je dirais, c'est que nous avons un faisceau problématique qui, dans le cas de Liverpool, est exacerbé, un, par la nature de cette équipe, qui est une équipe de dynamisme et de mouvement. Donc chaque fois qu'il y a des choses qui vont pas très bien, c'est exacerbé, et puis également par l'attention des médias. Parce que, et ça, on pourrait presque en faire un sujet de discussion, tu sais, avec tous nos correspondants en Europe, mais on est quand même dans une ère très particulière où on attend l'exceptionnel de toutes nos équipes. Si elles ne produisent pas l'exceptionnel, elles sont nulles. Parce qu'on a maintenant des exemples comme ceux, justement, de Manchester City, qui est une espèce de monstre. Qu'il y a des moyens, bon, qui sont quasiment sans équivalent dans le football mondial. Bon, on en reparlera dans 2 ans avec Newcastle, mais pour l'instant, c'est comme ça. On a des équipes comme le Bayern qui archi dominent, enfin qui archi dominaient jusqu'à cette saison. leur championnat, qui a écrasé leur championnat, on a des PSG, etc. Bref, on a des équipes, et même le Liverpool, qui était en sur-régime de Klopp, on a des équipes qui parviennent à faire des séries de résultats qui les amènent à 100 points par saison. Ce qui est insensé, ce qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire du football, où que ce soit, en plus d'un siècle et demi. Mais là, on a une super élite qui s'est mise en place, avec justement ces Manchester City, ces Bayern, ces PSG, et Liverpool, pour nous, en fait partie. Champion d'Europe, c'est normal. Toutes ces finales européennes, ce titre de champion d'Angleterre, etc., c'est normal. Donc, on a une attente totalement exagérée. Et du coup, on sous-estime les performances de certains clubs. Moi, je continue de penser que ce que fait Arsenal en ce moment est quelque chose d'historique, justement au vu des moyens de ce qu'a coûté cette équipe pour être mise en place, de sa moyenne d'âge, etc. Et Liverpool, en ce moment, passe par, en effet, un moment difficile. Je regardais, là, j'ai en face ma série de résultats. Mais ce n'est pas non plus totalement consternant.
C'est presque plus, si je me permets de te couper, Philippe, c'est presque plus la lecture du classement qui peut inquiéter. Ce que je dis, c'est assez symbolique. On a un Liverpool qui est à 8 points du top 4, mais un Liverpool qui est à seulement 5 points devant la zone de relégation. Évidemment, on ne va pas se mettre à parler de relégation pour Liverpool, bien sûr que non. Mais est-ce que ce n'est pas le signe que... Il y a peut-être un message qui passe aussi un peu moins bien de la part de Jürgen Klopp. En tout cas, comment est-ce que c'est vu du côté de l'Angleterre? Est-ce que le message Jürgen Klopp passe toujours aussi bien?
Alors, c'est évidemment l'un des grands sujets de discussion. Il y a beaucoup de gens qui évoquent les cycles de 7 ans qui sont particuliers à la carrière de Jürgen Klopp. 7 ans à Mainz, 7 ans à Borussia Dortmund et maintenant 7 ans à Liverpool. Bon, pour moi, c'est de la numérologie, ça n'a absolument aucun sens, parce qu'en fait, quand il était parti de Mainz, c'est pas parce qu'il avait raté. En fait, ils étaient arrivés quatrième à, je crois, 2 points de la promotion en Bundesliga. C'est simplement que, bon, c'était un entraîneur qui était tellement coté en Allemagne qu'un plus grand club le voulait. Ce qui s'était passé au Borussia Dortmund, c'était lié davantage au fait que un problème, certes un problème de cycle, mais aussi un problème de désaccord avec ses dirigeants, qui avaient notamment vendu Götze et Robert Lewandowski, et ce que Klopp avait très mal digéré, donc il est parti. Et à chaque fois, c'est lui qui a démissionné. Bon, il est normal que tout entraîneur passe des moments où ça se passe moins bien. Pense à Mikel Arteta l'année dernière, par exemple. Mais tu peux rebondir. Là, c'est vrai, à cause justement de ce que j'appelle ce faisceau problématique, du coup, on remet en question Klopp. On se dit, bon, c'est un super... En tout cas, ce que je crois sur lequel... ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que Klopp n'a jamais dû faire face à un tel test à Liverpool depuis son arrivée. Même lorsqu'il avait eu cette série de résultats catastrophiques en 2020-21, tout le monde avait mis en avant le fait que son effectif était complètement ravagé par la Covid et par les blessures. Là, cette fois-ci, il n'a pas le droit à cette même mansuétude. Et du coup, on pose les questions, évidemment, est-ce que Klopp... Et du coup, je vais te dire un truc qui me paraît insensé. Lorsque l'on regarde, tu sais que les Anglais peuvent parier sur n'importe quoi, n'importe quoi. Quand tu regardes la liste des entraîneurs, ce qu'on appelle the sack race, la liste des entraîneurs, le premier qui sera viré, tu vois, dans la saison, Klopp est maintenant rentré dans le top 5 et il est donné à seulement 7 contre 1. Ce qui pour moi est absolument hallucinant, quoi. On parle d'un entraîneur dont l'équipe était à 2 matchs de faire le quadruplé il y a de ça quelques semaines, mais pas tellement plus que ça, quelques mois. Mais c'est vrai, donc il y a un questionnement. Et le problème, pour moi, principal, c'est le fait que ce questionnement peut s'amplifier tellement facilement en 2022, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, que ça peut en effet participer et aggraver ce sentiment de crise, particulièrement chez les joueurs, qui ne vont pas pouvoir ouvrir leur téléphone sans voir Liverpool la crise, qui vont recevoir des messages des copains, de la famille, des agents, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, et ça peut avoir un effet déséquilibrant. Alors maintenant, le test, en effet, ça va être pour Liverpool, comment est-ce qu'ils vont pouvoir stopper ce processus de déséquilibrage, comment vont-ils pouvoir retrouver leur marque, et retrouver aussi une certaine régularité, parce que, comme tu le disais toi-même, on les a vus, quand ils battent Manchester City, dans un match absolument superbe, le plus beau de cette saison, on se dit, ça y est, ils sont de retour. On les voit complètement écraser Bournemouth ou les Rangers, on se dit, ça y est, c'est le grand Liverpool qui marque en rigolant. On voit Mo Salah marquer le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, et puis pour que le match suivant, eh ben, Mo Salah soit plus vraiment au niveau, puis il revienne, puis il n'y soit plus. Donc, c'est tout un déséquilibre en ce moment, en effet, qui fait que Liverpool et Klopp, le Liverpool de Klopp, passe par ses moments le plus difficile depuis son accession au pouvoir, si l'on peut dire, il y a 7 ans et quelques jours de cela. De ce côté-là, tu as totalement raison, et l'Angleterre, je ne dirais pas, ne parle que de cela, mais c'est certainement le sujet numéro 1 quand il s'agit de football ce week-end.
Bon, en tout cas, Jurgen Klopp et Liverpool, ils vont continuer à être sacrément testés, puisque ce sont Naples et un déplacement à Tottenham qui arrive le week-end prochain en Première Ligue. Il se pourrait qu'on parle de nouveau de Liverpool dans Tour d'Europe lundi prochain avec Cyril. On verra. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. On se retrouve donc la semaine prochaine pour continuer de décrypter ce championnat passionnant qu'est la Première Ligue. À la prochaine, Philippe.
À la prochaine.
On termine ce Tour d'Europe en rejoignant l'Allemagne et David Lortorari, notre spécialiste Bundesliga. David, avant d'évoquer notre sujet du jour, Choupo-Moting, est-ce qu'il y a une image qui t'a, que tu as particulièrement retenue de ce week-end de foot allemand ?
Ben, on pourrait faire des débats interminables sur l'arbitrage un peu partout sur nos championnats européens. Ouais. Et ce week-end, c'était dans le match très très serré entre l'Eintracht et Dortmund. Une décision d'arbitrage, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui a posé vraiment question sur un pénalty ou non accordé. Et finalement, on a continué d'en parler tout le dimanche. Ça arrive parfois en Allemagne aussi, ces questions-là. Et c'était évidemment dans un match très très serré entre l'Eintracht et Dortmund. Victoire de Dortmund à l'arrivée, mais on se demande encore si elle est méritée.
Bon, on l'a dit, notre sujet principal du jour, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. J'allais dire, c'est le tube du moment au Bayern Munich. Je vous lis ces chiffres. 5 titularisations de suite pour l'attaquant camerounais, 6 buts, 3 passes décisives sur ces 5 titularisations. Qu'est-ce qui se passe avec Choupo ? Ma question, elle est toute simple, David.
Eh bien, en fait, y a deux choses. Et surtout, il faut se départir de notre spectre vu de France, parce qu'en France, on a le souvenir d'images un peu cocasses, et notamment de ce but tout fait qu'il n'avait pas concrétisé avec le Paris Saint-Germain. En Allemagne, on ne connaît pas ça. Et donc, on le prend, et à mon avis, à juste titre, pour un bon joueur, pour un bon attaquant, assez technique et finisseur aussi. Et on se rend compte que ça fonctionne très bien parce qu'autour de lui, c'est très mobile. Gnabry retrouve des couleurs, Sadio Mané retrouve des couleurs, Jamal Musiala derrière l'attaquant de pointe à la place de Thomas Müller qui est un peu souffrant actuellement, ça fonctionne très bien. Et Choupo-Moting en profite pour marquer des buts, il est très très bien servi. Mais surtout, Arthur, il est un formidable attaquant d'appui, c'est-à-dire qu'on lui donne le ballon, il le garde 1 ou 2 secondes, il le retransmet de manière très sobre vers les joueurs qui tournicotent et qui tourbillonnent autour de lui, et ça fonctionne très bien en ce moment, effectivement.
C'est vrai que, par exemple, on a l'exemple récent de son match contre le Barça, où il a été extrêmement précieux dans son jeu de haut but pour refaire monter... pour sortir de la pression barcelonaise, tout simplement. Est-ce que finalement, Choupo, il ne répond pas à ces interrogations qu'on avait en début de saison après le départ de Lewandowski et l'arrivée de Sadio Mané ? On a dit dans les précédentes éditions de Tour d'Europe que Mané, évidemment, n'avait pas le profil de Lewandowski, qui manquait d'un vrai neuf. Finalement, ils l'ont avec Choupo.
Exactement, à tel point qu'on peut raisonnablement confirmer que le Bayern ne cherchera pas un attaquant supplémentaire à tout du moins cet hiver. Parce que au Bayern, on sait comment ça fonctionne. Si vous êtes en réussite, si vous marquez des buts, si vous êtes performant, si vous êtes décisif, si vous êtes à la hauteur, vous continuez votre chemin. Ça fait partie de ces clubs où on ne pardonne pas. Évidemment que si un attaquant était transparent pendant 10 matchs successifs, on lui chercherait un successeur. Et comme Choupo marche bien actuellement, le Bayern se dit... Ça permettra en plus de faire des économies cet hiver. On va continuer avec cet attaquant. Je sais qu'on discute de quelques noms, Harry Kane à terme, Marcus Thuram également, mais on peut vraiment considérer que cet hiver, on va continuer avec Choupo-Moting. Encore une fois, il a toutes les qualités avec les joueurs qui sont autour de lui pour garder le ballon quand c'est nécessaire, pour être le finisseur quand c'est nécessaire aussi, parce que c'est un bon attaquant, on insiste là-dessus. Et puis, il est au service de l'équipe. Et effectivement, c'est vraiment le tube du moment sur le terrain et en dehors aussi, parce que c'est un joueur qui met une excellente ambiance dans le club et dans l'équipe.
Alors, est-ce que tu penses que c'est parti pour durer? Parce qu'on est quand même tenté de se dire qu'il y a un petit côté conjoncturel. Je pense aux absences qu'il y a au Bayern en ce moment. Leroy Sané qui est blessé depuis plusieurs matchs. Thomas Müller qui rate pas mal de matchs aussi. Kingsley Coman, entre les blessures et les suspensions, il a déjà raté 8 matchs cette saison. Forcément, tout ça, ça fait un peu de place pour Choupo. Est-ce qu'avec un effectif au complet, tu penses qu'il aurait quand même son mot à dire en tant que titulaire?
Il y a deux aspects. Il y a l'aspect un trentenaire bien tassé désormais qui ne peut pas faire 50 matchs dans une saison consécutive. Ça, on peut raisonnablement le penser. Je pense qu'effectivement, tout le monde en est conscient au Bayern. Le Leroy Sané va revenir. Il a repris l'entraînement. On pourrait même le voir dès le match contre l'Inter. Comment, effectivement, a repris aussi des bouts de match. C'est une partie de la réponse. Mais j'insiste. Il y a Matistel aussi, qu'on n'a pas
Oui,
cité,
bien sûr.
le jeune attaquant venu de Ligue 1, mais Choupo, c'est un profil unique dans l'effectif du Bayern, ce profil un peu classique, un peu à l'ancienne. Et je suis sûr quand même que Nagelsmann, si ça fonctionne, si ça continue de fonctionner, s'il y a un torrent de buts avec Choupo sur le terrain, il va continuer de lui donner 55, 60, 65, 70 minutes de jeu parce que il répond présent à ce qu'on lui demande de faire. Et donc, il n'y a pas de raison, en fait, de le sortir de l'effectif, même s'il y a d'autres solutions, bien sûr, en attaque.
Bon, en tout cas, on va voir si Choupo continue sur sa lancée cette semaine en Ligue des Champions. Il est à un but toutes les 83 minutes en Ligue des Champions avec le Bayern Munich. C'est le meilleur ratio du Bayern, tout simplement. Donc on verra s'il continue de surfer sur cette belle vague. Merci David, en tout cas, pour ta présence. On se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après dans Tour d'Europe. Merci encore et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour ce lundi. On a essayé d'être complet en allant en faire un tour du côté des 5 grands championnats. On vous le rappelle de nouveau, vous pouvez nous retrouver en tapant Eurosport Football Club sur toutes les plateformes de podcast ou bien en vidéo pour retrouver les meilleurs moments de l'émission. Eurosport Football Club, c'est aussi Mercredi Mercato le mercredi et le FC Stream Team le vendredi, bien évidemment. Lundi prochain, vous retrouverez l'excellent Cyril Morin. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter cette émission. À très vite.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.